Chers auditeurs, bonjour. Donc, nous allons voir aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Se marier vraiment, je suis le père Pierre-Marie Castaignos. Et depuis le mois de septembre, nous cheminons ensemble sur les questions de couple et de mariage. Et nous allons voir la question de la réconciliation dans le couple, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si simple, la réconciliation dans le couple. Déjà, la réconciliation en général, même dans la famille, c'est un mot qui est compliqué, c'est une démarche qui est pas aimée dans le couple, évidemment, ça revêt une difficulté supplémentaire. Premièrement, de dire que les conflits font partie de notre vie. Et un premier obstacle à la réconciliation, un premier obstacle, c'est ne pas reconnaître que l'on a été blessé. C'est ce qu'on pourrait appeler le déni, hein, le fait de dire, ben en fait, non, c'est pas grave. Vous avez des personnes comme ça, vous leur demandez pardon, vous pensez que. Et puis elles vous disent, non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Alors que oui, c'est grave. C'est quelque chose qui est grave dans le sens où ça a pu les blesser, mais elles ne reconnaissent pas le fait d'avoir été blessées. Donc, la première chose, c'est d'accueillir la blessure de l'autre, soi-même. Mais aussi, de l'autre côté, quand on est agresseur, bon, le mot est un peu fort, mais en tout cas victime, qu'on a pu être blessant dans nos attitudes, dans nos paroles, de prendre conscience qu'on a pu blesser. Et c'est aussi une autre difficulté. Il y a des personnes qui, dans leur mode de fonctionnement, ne demandent jamais pardon. Ne demandent jamais pardon parce que ce sont elles les victimes. Et donc, même si elles agressent, même si elles disent des mots très forts, même si elles se mettent en colère, etc., voire vous insultent, n'auront pas l'idée de vous demander pardon parce que pour elles, c'est pas un problème, quoi. C'est pas bon. Parce que c'est vous qui êtes responsable. Et donc là, quand vous êtes face à une personne comme ça, potentiellement, vous êtes face à une personne toxique. C'est-à-dire, vous êtes face à une personne qui est dans une manipulation, qui utilise la culpabilité pour avoir une emprise sur vous. Mais dans ce cas-là, dites-vous aussi que pour avoir une emprise, il faut être deux. C'est-à-dire que pour avoir une emprise, c'est accepter aussi que l'autre puisse venir toucher ma culpabilité, joue avec ma culpabilité. Je lui donne un blanc-seing, c'est-à-dire je lui donne la permission, quelque part, de venir jouer avec ma culpabilité. Je me mets sous son emprise. Et il y a tout un travail à faire qui n'est pas si simple. De renoncer au fait d'être sous l'emprise de quelqu'un qui vous blesse et qui ne demande pas pardon, sous l'emprise d'un manipulateur. Il y a eu beaucoup de livres maintenant écrits sur la manipulation, sur ce qu'on appelle les personnalités narcissiques, c'est-à-dire des personnalités qui ont eu dans leur construction un défaut d'estime d'elle-même. Et donc, elle pense avoir un estime d'elle-même en ayant un pouvoir sur vous. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter et mettre en dehors de votre vie parce que, voilà, en tout cas, c'est quelque chose. Bon, développer des stratégies, je pense par exemple dans la vie professionnelle, voire dans la vie familiale. Alors, quand ça arrive dans la vie de couple, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a le sacrement de mariage, etc. Mais bon, d'essayer d'avoir des stratégies pour éviter ça. Mais bon, ça reste quand même une partie, pas la plus importante des blessures, mais de dire que la blessure fait partie de notre vie. Nous, comme dans notre foi catholique, nous croyons que, eh bien, Jésus est mort pour nous sauver du péché originel et de ses conséquences. Et à l'intérieur de ce péché originel et de ses conséquences, il y a la capacité d'être blessé, de blesser. Vous voyez, donc ça, et de même la capacité du déni, déni comme agresseur, déni comme victime. Ensuite, un autre point pour introduire notre propos, c'est le mot réconciliation est différent du mot pardon. Pardon, c'est une attitude personnelle. Il peut y avoir pardon sans réconciliation. Réconciliation veut dire qu'on est avec agresseur et victime, se sont rencontrés. On fait un pas l'un vers l'autre et ont enterré la hache de guerre. Mais parfois, c'est pas possible, pour X raisons. Parfois, l'autre, je viens de l'évoquer, ne reconnaît pas ses torts. Parfois, dans l'autre, c'est une personne défunte, hein, dans le couple et la famille, de façon générale, la personne est défunte. Donc, du coup, pour X raisons, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. Mais il y a toujours une possibilité de pardon qui est une démarche personnelle. Le pardon, c'est en fait transformer la souffrance, transformer la blessure en capacité de communion. À quoi est-ce que l'on reconnaît qu'on a pardonné? On a reconnaît qu'on a pardonné à deux choses. Premièrement, parce que quand on pense à l'autre, on pense à l'autre paisiblement. Et donc, et non pas avec une attitude énervée, une attitude violente, etc., parce qu'on a tous un océan de violence en nous-mêmes, contre nous ou contre les autres. Donc, quand j'évoque dans ma tête, quand la figure de l'autre, le visage de l'autre traverse mes pensées, je reste paisible. Et puis, un autre critère qui montre qu'on a pardonné, c'est quand nous avons une attitude qui se réjouit du bien de l'autre. Imaginons que la personne qui m'a agressé gagne au loto. Eh bien, vous vous réjouissez, voilà. Et de même, vous vous attristez si vous apprenez que votre agresseur est victime d'un cancer. Ben, vous vous attristez parce que c'est un mal pour lui. Et non pas, ah ben enfin, il y a une justice sur Terre, il a un cancer. Parce que si vous dites ça, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le pardon. Il n'y a pas eu de démarche de pardon. Vous voyez, donc il y a deux points qui sont importants dans le pardon. C'est penser à l'autre paisiblement, se réjouir de ce qu'il a fait positivement et s'attrister des malheurs qui le frappent. Donc ça, maintenant, la réconciliation, j'aime bien ce mot de réconciliation, parce que si on est dans une démarche de couple, on est dans une démarche de réconciliation. C'est donc on voit, j'aime bien travailler l'étymologie des mots, et dans l'étymologie des mots, réconciliation, ça vient de clarté, de clair. Il y a quelque chose qui est dans l'obscurité, qui est dans la ténèbre, qu'il faut amener à la clarté, à la clarté de Dieu, puisque nous sommes dans une démarche spirituelle, faire la lumière grâce au Saint-Esprit, hein, sur tel ou tel aspect qui soit encore sombre dans ma vie. Hein, donc, c'est un point qui est important, c'est le passage, en fait, le pardon ou la réconciliation, hein, de la ténèbre à la lumière, qui est le passage même de Pâques, hein, que nous vivons en ce moment dans ce temps pascal. Voilà, c'est les ténèbres qui ont été vaincues par la lumière. Le pardon, un autre point aussi, le pardon, c'est la démarche explicite de Jésus, hein, dans sa prière vers le Père. Hein, l'obligation de la correction fraternelle se rattache à l'obligation du pardon. Hein, c'est la cinquième demande du Pater, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Hein, donc, c'est un point qui est typique du christianisme, qui est beaucoup moins développé dans la foi juive, par exemple, bon, qui peut-être, je connais moins dans la foi musulmane aussi, mais en tout cas, dans le christianisme, c'est un pilier absolument du christianisme que cette question du pardon et de la réconciliation. C'est dans la prière de Jésus au Père, hein, tout en ayant en tête que le Christ, enfin, seul par sa croix, hein, et c'est lui qui nous conduit vers la réconciliation, vers le pardon plénier. D'une certaine manière, le christianisme prêche pour un pardon qui est assez, une certaine modestie dans le pardon. Hein, c'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Ça veut dire quoi? C'est que déjà nous sommes réconciliés par le Christ, mais pas encore dans une plénitude. Hein, de façon, voilà, c'est pas pareil la plénitude dans laquelle que nous aurons dans le face-à-face avec Dieu, où il n'y aura pas du tout de vengeance, de rancœur, etc. Il n'y aura que l'amour qui, dans ce paradis que le Seigneur nous a promis, régnera, cet amour. Mais en attendant, les gestes que nous posons de pardon, de réconciliation, n'atteignent leur plénitude que quand le Christ mettra tous ses ennemis sous ses pieds, hein, rendra toutes choses parfaitement soumises au Père. C'est uniquement là où il y aura une attitude de pardon et plénier. Mais en attendant, il faut quelque part accueillir une certaine frustration. Hein, les gestes qui sont indispensables, hein, qui rendent possible la vie sociale sous toutes ses formes, les gestes de réconciliation, de pardon, ne serait-ce que excusez-moi quand on bouscule quelqu'un dans un magasin sans le faire, ça rend la vie sociale possible. Mais ils apparaissent comme des signes avant-coureurs, ces gestes de pardon, d'un monde à venir. Le christianisme plaide donc en faveur d'une modestie dans la réconciliation ou le pardon, et faire l'union parfaite des hommes entre eux. Ça, il faut faire le deuil de l'union parfaite des hommes entre eux. Ça, c'est vraiment important parce que, et c'est valable évidemment pour le couple. Quand on se marie, quand on est dans le début de phase amoureuse, etc., on est dans une dimension très fusionnelle l'un envers l'autre et on pense que ça durera toute la vie. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le sens où, à un moment donné, arriveront les conflits dans le couple. Et ces conflits-là, c'est important d'avoir un regard qui est assez positif. Je suis toujours un peu, disons, questionné par des couples qui ne se disputent jamais, où il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Je me dis, mais est-ce qu'ils mettent sous le tapis leurs différences? Est-ce que c'est des couples dont les personnalités sont absolument contre les conflits? Il y a des personnalités qui ont absolument horreur du conflit. Il faut absolument tout, tout, tout pour l'éviter. Donc, vous voyez, donc, bon, et ça c'est, je trouve parfois difficile parce que qui dit aussi vouloir éviter les conflits, dit ne pas laisser la porte ouverte à l'autre à nous faire plaisir. C'est en creux, c'est ça. C'est qu'est-ce qui me dérange? Je ne dis pas ce qui me dérange, je ne dis pas ce qui me fait souffrir, mais de même manière, je ne dis pas ce qui pourrait me réjouir, ce qui pourrait me donner de la joie. Hein, donc, je suis, à force de se suradapter à l'autre, voire l'un à l'autre, si les deux ont la même personnalité, eh bien, c'est quelque chose qui est évidemment problématique, parce que, voilà, bon, certains couples arrivent à fonctionner très bien comme ça, mais en tant que tel, ne soyez pas paniqués si vous avez, voilà, des exaspérations, etc. Maintenant, je trouve aussi dans cette démarche de réconciliation de couple, et surtout au fur et à mesure des années où vous connaissez un peu les points qui sont blessants, bloquants éventuellement pour l'autre, eh bien, soyez attentifs à ne pas appuyer sur ces points bloquants. Il y a des points qui font mal, il y a des paroles, des thèmes qu'il faut éviter de toucher, je sais pas quoi, le thème de l'argent, le thème de la famille de l'autre, le thème du travail ou du chômage, ça, bon, bref, on sait bien qu'il y a des thèmes qui sont plus compliqués à toucher et qui font rentrer l'autre dans une certaine exaspération. Mais voilà, c'est parfois il peut y avoir une sorte de toute-puissance à vouloir jouer avec l'exaspération de l'autre en appuyant systématiquement sur les thèmes qui l'emmènent hors de lui-même. Un signe d'un couple qui est mûr, c'est qu'on repère les thèmes qui, en tout cas, ne sont pas abordés de façon impunément, hein, mais on repère ces thèmes et on évite ou on les traite avec beaucoup de douceur, on prévient l'autre, on prend des gants pour dire, mais écoute, j'aimerais bien qu'on parle par exemple, de ta famille, j'aimerais bien, et non pas tout de suite à brûle-pourpoint aborder le sujet frontalement qui va faire que l'autre va se sentir agressé et donc ça va partir aussi dans les tours. Voilà, je pense que la connaissance que vous avez de vous-même dans le couple va faire, et l'amour qui vous unit va faire que vous allez pouvoir agir d'une manière ou d'une autre pour éviter de mettre le couple dans la tension le plus possible, tout en abordant les conflits. Mais il y a beaucoup de manières d'aborder les conflits. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans ce qu'on appelle la communication non violente. La communication non violente, c'est pas le refus des conflits. La communication non violente, c'est on voit un conflit, voire on voit une émotion, une colère, etc. La colère qui est là au rendez-vous, mais c'est la colère qui est là au rendez-vous, elle est signe, c'est d'une certaine manière une détresse. C'est une détresse, et donc du coup, de quoi cette détresse est-elle le signe? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière, insatisfait, qui fait que mon conjoint s'est mis dans la colère? Oui, donc c'est intéressant d'aller toujours ce qu'on appelle en communication non violente sur la colline de l'autre, aller sur la colline de l'autre, c'est-à-dire aller sur le fait que pourquoi, de son point de vue, ça a été quelque chose d'agressif, la parole que j'ai pu dire ou le geste que j'ai pu poser. Donc c'est intéressant de. Voilà, de travailler là-dessus. Faisons le deuil d'une union parfaite entre les hommes. Faisons le deuil d'une union parfaite dans un couple. Hein, être en couple, ce n'est pas s'engager à être comblé par l'autre, parce que ça, ce serait absolument pas juste, pas légitime. On n'est pas engagé à être comblé par l'autre, parce que c'est mettre l'autre à la place de Dieu. Et ça, c'est précisément une idolâtrie. Mettre l'autre à la place de Dieu, c'est une idolâtrie. Donc, non, l'autre donne ce qu'il peut, il m'aime, il a une charité, un amour, une tendresse, mais il ne viendra jamais combler. Parfois, on voit des personnes qui ont, par exemple, souffert de blessures d'abandon ou qui n'ont pas été suffisamment sécurisées dans l'amour, qui demandent au conjoint de combler la blessure. Et donc, c'est vraiment un puits sans fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument retravailler dans le couple. On ne peut pas vivre dans un couple en demandant à l'autre de venir guérir mes blessures. Hein, ça, c'est pas, c'est un travail que l'on a à faire personnellement, souvent accompagné d'un professionnel qui va vous aider à travailler sur, par exemple, une blessure d'abandon pour éviter de demander à votre conjoint de vous dire 10 fois par jour, je t'aime, par exemple. Voilà, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Vous voyez, ça c'est typiquement épuisant. Vous voyez, donc vouloir comme une réassurance. Non, je pense que la blessure, elle est là. Le conjoint fait ce qu'il peut pour ne pas appuyer sur cette blessure et générer des paroles violentes ou des gestes violents, en tout cas de sortir de la maîtrise de soi, et puis voilà, de commencer à faire un travail l'un sur l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est important d'accueillir les blessures de l'autre, d'accueillir les fragilités dans la préparation au mariage, j'insiste beaucoup là-dessus. La fragilité, les fragilités de l'autre sont vraiment une étape de manifestation aussi de la confiance, fait que vous pouvez vous montrer fragile l'un à l'autre. Ça veut dire que vous avez confiance l'un envers l'autre et que vous avez d'une certaine manière rentré dans une lâcher prise, vous êtes dans une sécurité dans l'amour qui fait que vous pouvez montrer votre vulnérabilité. Hein, et donc, dans cette vulnérabilité, il peut y avoir aussi cet aspect de blessure que vous montrez et l'autre va en prendre soin dans le sens de pas appuyer, de pas creuser la blessure pour vous emmener dans une réaction excessive. Et donc, vous mettre dans une tension qui ferait que vous devriez demander pardon, etc., pour vos gestes. Donc, ensuite, un autre point qui est intéressant, c'est pardonner, ce n'est pas oublier. Parce qu'on entend parfois, oui, je pardonne, mais j'oublie pas. Et quand la personne dit ça, en général, c'est qu'elle n'est pas très apaisée et qu'elle n'a pas forcément pardonné. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des amnésiques. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des amnésiques. Il nous demande de convertir le mal. C'est ça, pardonner, c'est convertir le mal. Ce qui nous séparait nous unit à présent. C'est-à-dire, je m'appuie sur le mal pour revendiquer la communion. C'est vivre aussi le mal avec une certaine paix. Hein, le pardon permet de cicatriser la plaie. C'est aussi la béatitude des bienheureux, des miséricordieux. Voilà, c'est faire miséricorde, et la miséricorde, c'est une béatitude, c'est-à-dire une expérience du royaume de Dieu. Hein, donc, c'est intéressant d'être attentif, on ne peut pas ne pas, on peut pas oublier une blessure, on ne peut pas oublier des mots qui ont été trop. On n'a pas une vocation à être amnésique. Hein, mais en revanche, ces mots-là, ces gestes-là, ces paroles-là qui ont été dites, ben, on s'appuie dessus pour convertir le mal. Et c'est vrai, nous qui sommes en plein temps pascal, bien, nous avons un certain regard sur le mal. Nous avons un certain regard sur le mal qui fait que ce mal-là, ben voilà, quelque part, avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, nous voulons le convertir. Hein, soyez vainqueurs du mal par le bien, nous dit saint Paul. Nous voulons convertir ce mal en une possible communion, en tout cas à une forme d'apaisement. Si ce n'est pas une communion, c'est en tout cas un apaisement. Et de ce point de vue-là, même si ça dépasse le cadre du couple, la réconciliation, par exemple, franco-allemande, est quelque chose d'unique, absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Hein, parce que avec 3 guerres consécutives et quelle guerre des pays qui sont frontaliers, et regardez là où on en est, c'est-à-dire il y a eu le mal qui a été regardé en face, il y a eu des demandes de pardon, et puis ensuite il y a l'accueil du pardon comme nation à travers les représentants des pays concernés, et qui fait qu'aujourd'hui l'unité franco-allemande n'est pas discutée, personne ne la discute, et il ne viendrait à l'idée de personne de rentrer en guerre ou en conflit avec l'Allemagne d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est vrai dans l'Union européenne, mais alors que dans l'Union européenne aussi, on a eu énormément de batailles quand vous regardez les siècles précédents. Donc, je trouve que c'est le fait que ces deux nations chrétiennes aussi, les nations chrétiennes aussi qui ont construit l'Europe. Ça, on l'oublie trop souvent. Hein, le drapeau européen avec les étoiles, les 12 étoiles, c'est les étoiles de Marie, hein, qui sont dans l'Apocalypse. C'est vraiment la vie chrétienne, les valeurs chrétiennes qui ont fondé l'Union européenne. Hein. Par exemple, vous n'avez pas l'équivalent nazi. Il n'y a jamais eu de demande de pardon entre le Japon et la Corée, par exemple. Alors qu'il y a eu vraiment des déportations de femmes pour les emmener en prostitution au Japon. Voilà, donc ça a été très, très, très douloureux. Mais nous, comme nation chrétienne, on regarde le mal, on s'appuie sur le mal et on dit non, on ne veut pas que le mal ait le dernier mot. On ne veut pas que cette difficulté que l'on a subie, cet affrontement qu'on a pu avoir, cette colère, on ne veut pas que ça ait le dernier mot. Ça veut dire aussi, c'est dans la Bible, ne jamais s'endormir sur sa colère. De jamais s'endormir sur sa colère. On peut avoir une colère, mais pensez aussi, est-ce que vous avez entre vous, comme couple, des gestes de réconciliation? Est-ce que vous avez, entre guillemets, un rituel de réconciliation? Ça peut être tout simple, ça peut être un baiser, ça peut être se prendre dans les bras, ça peut être juste un signe qui montre qu'on fait la paix, qu'on enterre la hache de guerre, etc. Voilà. Ne jamais s'endormir sur sa colère, et puis à un moment donné, il faudra revenir vers l'autre. Et là, j'ai une question qui parfois est difficile, mais lequel revient le plus vers l'autre? Lequel revient le plus vers l'autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce qu'il y en a qui s'enferment davantage, parfois qui se raidissent? Quelle est mon attitude quand il y a un conflit? Quelle est mon attitude quand je suis blessé? Est-ce que je réponds aux cris par les cris? Est-ce que je m'enferme? Est-ce que je claque la porte et je pars dehors? C'est intéressant de voir comment chacun réagit quand il est blessé, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important, ça. Ensuite, dans le pardon, en couple, il y a aussi porter ensemble la difficulté. Je trouve qu'il y a des couples qui se découragent beaucoup trop vite, qui se découragent beaucoup trop vite dans le sens où c'est des couples qui, voilà, d'une certaine manière, se découragent de leurs conflits, se découragent de leurs engueulades, voilà, et qui disent, en fait, la séparation, le divorce est la seule solution. Ben, nous ne croyons pas que le divorce soit la séparation, soit la seule solution. L'Église accueille la séparation, ça vous savez, ça fait partie aussi, si le mariage à l'Église est indissoluble, mais on peut avoir une séparation de corps parce que la vie, ne serait-ce que pour mettre à l'abri d'une personne violente. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui, voilà, qui, d'une manière ou d'une autre, est quelque chose de fort. Mais on peut avoir dans notre vie une attitude beaucoup plus apaisée en fonction de la manière dont on peut gérer les choses et dont on peut sortir justement de cette difficulté et en ne perdant pas l'espérance. Hein. C'est pas parce qu'on peut former un beau couple tout en s'engueulant, pardonnez-moi l'expression, régulièrement. C'est pas pour ça que même si les couples, c'est pratiquement leur manière de fonctionner. Mais jamais au monde, ils se sépareraient. Simplement, voilà, il faut juste soyez attentif par rapport à ça, au rapport avec les enfants. Si vous avez les enfants qui sont témoins, les enfants qui sont témoins de la qui sont témoins de la difficulté et qui devant lesquels vous vous engueulez, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Vous voyez, donc je pense que voilà, d'être attentif pour pas créer une tension chez l'enfant, pensant que souvent que c'est à cause de lui, l'enfant culpabilise et pense que c'est à cause de lui. Voilà, donc c'est quelque chose. Il y a une difficulté à porter ensemble. Hein, c'est illusoire de croire à une vie de couple, une vie de famille sans difficulté, croire à une vie où tout irait tout seul. Hein. Le couple, c'est d'abord l'union de deux pauvres qui, malgré leur pauvreté, se sont mis en route pour servir la vie. Et ça, j'en suis très convaincu. Hein. Le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Le mariage, c'est l'union de deux pauvres, c'est-à-dire c'est l'union de ceux qui se sont mis en route, ils reconnaissent leur fragilité, ils viennent devant l'autel du Seigneur au jour de leurs noces pour demander la grâce deux cheminées ensemble, non pas qu'ils sont déjà arrivés, ça c'est important, c'est parfois on se met la barre trop haute et on veut que tout soit nickel dans notre couple pour pouvoir se marier. Ben non, vous restez en chemin et même après le mariage à l'église, vous resterez en chemin. Mais vous dites au Seigneur, ben écoute, tu vois Seigneur, nous sommes des pauvres et nous avons une difficulté à nous entendre, nous avons, voilà, et le jour de vos noces, vous reconnaissez comme pauvre devant le Seigneur parce que vous acceptez d'une certaine manière, par ce sacrement, que le Seigneur soutienne votre couple et du coup, vous aurez l'habitude, et ça c'est d'où l'importance de la vie spirituelle à deux, qui n'est pas toujours au rendez-vous malheureusement, mais vous aurez l'habitude de vous tourner ensemble à nouveau durant votre vie matrimoniale, de vous tourner ensemble à nouveau vers le Seigneur pour être vraiment attentif à vous confier, à confier la détresse qu'il peut y avoir de l'un ou de l'autre, parce qu'on sait très bien, parfois, des énervements, hein, c'est des formes de détresse aussi. Hein, donc, ensuite, on voit la question, un autre point qui est, on voit que le pardon se voit aussi d'une certaine manière à la confiance qui est retrouvée. L'amour circule entre nous. Hein, donc, dans ce processus de pardon, il y a d'une certaine manière la présence du Seigneur, que ce soit avant, durant, après le temps de pardon, qui vient fortifier ce qui a été blessé. C'est donc le fruit de la prière. Donc, le pardon fait que il y a à nouveau une confiance. C'est, on a pu s'exaspérer, on a pu être tendu, on a pu, etc., etc. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais que il y a une démarche de réconciliation, de pardon qui a été faite l'un envers l'autre. Et puis voilà, donc on se demande pardon et donc on est dans une attitude de confiance l'un envers l'autre. On retrouve ça. Hein. De certaine manière, on sort d'une crise en réaffirmant ce qui fait notre unité comme couple, comme famille, en faisant mémoire de l'amour qui nous unit. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude que c'était toi avec laquelle je voulais construire mon couple. Donc, on réaffirme notre unité. Hein. On sort d'une crise par le haut. On sort d'une crise par le haut en redisant oui, quand les passions sont apaisées, parce qu'il faut arriver à un certain apaisement des passions, quand les passions sont apaisées, bien du coup, oui, je suis dans une plus grande douceur et je refais mémoire, d'où l'importance d'avoir cette certitude intérieure quand on s'est marié, je refais mémoire que c'était toi, c'était lui, c'était elle, hein, je ne peux pas me mentir à moi-même en me disant non, en fait, je me suis trompé parce que forcément, quand on est dans la tension, quand on est dans la souffrance, on a de cesse de voir que le jardin de l'autre, l'herbe est bien plus verte à côté. Et donc, du coup, ah ben, si avec telle femme, tel homme, et comme par hasard, vous rencontrez un vieil ami ou comme par hasard, vous rencontrez un ex, etc., avec qui vous entendiez très bien, etc. Et c'est comme ça qu'arrivent les adultères. Hein, vous voyez, donc, soyez très attentifs quand vous êtes dans une situation de tension. Possiblement, il y a la porte ouverte à l'infidélité pour, comme voyant en fait la tendresse reçue, parce que généralement il n'y a plus de tendresse que charnelle, il n'y a plus de tendresse affective, etc., quand le couple est en tension. Et donc, quelqu'un vous offre une tendresse, eh bien voilà, soyez attentif de ne pas courir de se vous mettre dans d'autres bras pour pouvoir pallier le manque de sécurité affective que vous avez, parce que là, ce serait quelque chose qui n'irait pas. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il ne ferait qu'augmenter la blessure et conduirait peut-être le couple à la séparation définitive. Donc, voilà, c'est réaffirmer que l'unité qui est entre vous, hein, en faisant mémoire de l'amour qui vous unit, hein, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude que c'était toi, que c'était lui, que c'était elle. Un autre point, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a eu des blessures, soit de ma faute, soit de la faute de l'autre, soit de la faute d'un tiers, parce que ce n'est pas forcément d'un couple. On pense aux personnes abusées, par exemple. Hein. Il y a toute une enquête qui est en train de se faire sur les incestes, donc les abus à l'intérieur des familles, cercles familiaux et amicaux. Bon, évidemment, c'est des blessures qui sont très grandes. Bon, c'est pas parce que j'ai ou des personnes qui ont été maltraitées, la maltraitance des enfants, qui ont été abandonnés peut-être par un parent, etc. Et ça a été vécu très douloureusement, etc. Ce n'est pas parce que je suis blessé, hein, par ma faute ou par la faute d'un autre que je ne peux pas construire. Et ça, c'est vraiment dans le cœur du mystère pascal. Le cœur du mystère pascal fait que, justement, nous croyons que il ne faut pas être indemne de tout pour commencer à construire quelque chose. Sinon, on ferait rien. S'il fallait être impeccable, sans ecchymose, sans cicatrices, etc. Non, notre réalité, c'est qu'on arrive dans le mariage avec des cicatrices, avec des ecchymoses, avec des bleus à l'âme, voire des bleus au corps. Mais une des formes du pardon, c'est justement de dire que ma blessure ne m'empêchera pas d'avancer. Hein, c'est un signe de résurrection. Vous vous rappelez, hein, que Jésus ressuscite avec ses plaies. Hein, et il dit à Thomas, mets ta main, mets ton doigt dans mes plaies, parce que c'est avec ses plaies qui sont lumineuses. Ses plaies, hein, de rayons sortent de ses mains, c'est ce que dit le psaume. Les plaies du Christ sont lumineuses. Mais c'est important que le Christ ressuscite avec ses plaies. Parce que s'il ressuscite pas avec ses plaies, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'assez désespérant. On ne peut pas expérimenter le pouvoir de la résurrection et le pouvoir d'amour de résurrection qu'à l'amour si le Christ n'était pas ressuscité avec ses plaies. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on est blessé qu'on ne peut pas construire. Hein. C'est justement l'affirmation pour nous-mêmes de la foi en la résurrection du Christ, c'est que j'accueille ma blessure, mais ça est comme un signe de résurrection, et je construis, et voilà, je me relève. Vous savez que le mot relever, ressusciter, hein, c'est le même mot. Voilà, je me relève. Hein. Donc, cette blessure-là, elle peut être féconde, elle peut même m'ouvrir des voies nouvelles. Hein. Une souffrance peut montrer un chemin pour un couple, une fécondité à laquelle il n'avait pas pensé, je pense. Ah, vous connaissez le témoignage de Tim, des époux, Tim Guénard, hein, les époux qui avaient, avec lui qui vient d'un passé très lourd, etc. C'était très fort. J'ai écouté son témoignage, etc., avec son épouse, et ils ont construit, ils ont accueilli, je pense qu'ils ont eu leurs propres enfants, mais ils ont aussi accueilli beaucoup d'enfants en difficulté, placés par le juge, parce que lui aussi a su, Tim Guénard, ce que ça voulait dire, être dans, voir la délinquance, dans l'addiction, dans la violence, etc. Et le Seigneur l'a touché, hein, et le Seigneur l'a rejoint. Et donc, ça a marqué pour le couple cette blessure qu'il a eue, sa blessure qui a été mise au contact avec le Seigneur ressuscité, donc qui est devenue une source d'amour, de fécondité. Ça a eu pour lui le début, c'était pour lui le début, hein, d'une vie nouvelle et d'une mission. Donc, c'est intéressant que on croit, nous, que comme chrétiens, comme disciples de Jésus, que la blessure peut être féconde, hein, peut m'ouvrir des voies nouvelles, hein, peut montrer un chemin, quelque part même peut dessiner un charisme pour le couple. Hein, la blessure peut dessiner un charisme pour le couple. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Le mariage est aussi une source des guérisons des blessures antérieures. Si il ne faut pas compter sur le couple pour boucher tous les trous, etc., de notre personnalité, le fait de rencontrer quelqu'un qui vous aime et qui vous accueille avec vos blessures, c'est évidemment une source de guérison. C'est l'autre état, le conjoint est aussi instrument du Seigneur pour se réconcilier peut-être avec sa propre enfance. Vous voyez, donc c'est important, bien sûr, qu'il y a la dimension d'une aide psychologique d'un professionnel parfois qui vous aide à relier votre enfance et voir qu'est-ce qui dans l'enfance est bloquant actuellement dans votre couple, agit dans votre couple actuellement alors que vous êtes adulte, mais il y a aussi la spiritualité, la dimension spirituelle qui fait que le Seigneur, par le sacrement de mariage, par l'amour de l'autre, vient progressivement guérir. Bien sûr, ce n'est pas magique. Nous croyons que le sacrement n'est pas magique. Nous croyons que le sacrement, c'est la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu quand on se met vraiment à son écoute, quand on rentre dans une dimension de vie spirituelle à deux, ben, la présence de Dieu vient guérir par le Saint-Esprit, n'oublions pas, est un baume. Hein, c'est ce que l'on chante dans Veni Creator Spiritus, c'est un baume. Donc c'est un baume qui vient guérir nos blessures. Donc c'est aussi à travers le mariage et le sacrement de mariage. Dans certains cas, quand on ouvre la porte à la vie spirituelle en couple, le Seigneur rejoint l'un ou l'autre pour le guérir dans ses propres blessures, voire des blessures d'enfance, des blessures qui sont cachées. Et puis pour terminer, j'aimerais faire allusion à un livre que vous connaissez certainement, qui est le livre du Père Jean Monbourquette, qui s'appelle Comment pardonner. Et il liste 12. 12 étapes du pardon. Je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait trop, ça prendrait trop de temps. Mais il commence en disant la première étape pour établir un pardon authentique, c'est décider de ne pas se venger et de faire cesser les gestes offensants. Si je réponds à la violence par la violence, au cri par les cris, aucun pardon sera possible, aucune réconciliation sera possible. Ensuite, il dit reconnaître sa blessure et sa pauvreté intérieure, partager sa blessure avec quelqu'un, pas forcément la personne qui nous a blessé, le couple qui nous a fait souffrir, hein, mais une personne tierce, hein, une amie, un ami, quelqu'un de confiance. Hein. Bien identifier aussi la perte, la perte qu'a engendré la blessure pour en faire le deuil. Ça, c'est je l'ai un peu évoqué, mais nous avons à faire le deuil d'une relation parfaite entre les hommes. Nous avons à faire le deuil d'une relation parfaite, d'une communion parfaite entre les... Ça n'existe pas. Nous avons à faire le deuil du paradis terrestre. Nous ne croyons pas au paradis terrestre. Hein, d'autres religions croient au paradis terrestre. Nous ne croyons pas au paradis terrestre. Hein, nous ne croyons pas que... nous croyons en des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Mais cette terre sera toujours une terre marquée par le péché, par la mort. Cette terre-là que Jésus est venu habiter et que Jésus ressuscité est venu sauver. Donc c'est aussi important de se dire que, d'une certaine manière, il y a des étapes de deuil aussi dans la dimension du pardon. Et puis le père Monbourquette continue en disant « accepter sa colère et son envie de se venger, même si on ne cède pas à la colère et on ne cède pas au désir de venger », c'est ce que l'on a vu en premier point, de pas mettre, de renoncer à tout geste blessant, mais en tout cas, on l'accepte, on voit que ça monte en nous. Ce n'est pas en étant dans le déni de la colère ou dans le déni de la violence qui nous habite qu'on va pouvoir faire un pas vers l'autre. Et puis, quand c'est possible, se pardonner à soi-même. Voilà, parce qu'on peut parfois, c'est aussi une étape, il le présente comme une étape du pardon à l'autre, et puis comprendre son offenseur. C'est ce que l'on appelle aussi dans la communication non violente, aller sur la colline de l'autre. Je vais sur la colline de l'autre, c'est-à-dire je me mets à la place de l'autre, qu'est-ce qui, dans l'autre, a pu l'énerver. Évidemment, quand la personne en face n'est pas dans une attitude pathologique. Si c'est une personne qui est dans une attitude de manipulation, une personnalité narcissique et une personnalité qui vraiment veut casser la relation, voilà, j'en prends acte et puis ensuite, il y aura des décisions à prendre. Mais en tout cas, de se mettre à la place de l'offenseur quand il n'est pas dans une attitude pathologique, hein, quand il n'est pas toxique en tant que tel, mais c'est juste une personne comme vous et moi qui a ces moments un peu de difficulté, de tension, de dureté. Voilà, bah, du coup, de se mettre à la place. Qu'est-ce qui a pu le blesser, du coup, pour refaire aussi le chemin de son côté vers moi. Et puis le père Monbourquette dit trouver le sens de la blessure dans sa vie. C'est ce qu'on a pu évoquer avec de dire de la blessure peut aussi jaillir la vie dans la résurrection. Se savoir digne de pardon et d'être pardonné. Cesser de s'ouvrir à la grâce de pardonner. Voilà, c'est renouveler quand on arrive à la fin du processus, renouveler la relation. Ça peut être surtout quand il y a eu des grosses blessures, je pense par exemple blessures liées à l'infidélité, qui sont des blessures très profondes, eh bien qu'il y ait une demande de pardon et que le couple, par exemple, renouvelle par exemple les promesses matrimoniales au sein d'une retraite. Souvent, c'est quelque chose qui peut être demandé. Voilà, ces questions de réconciliation, de pardon dans le couple qui sont très importants quand on se prépare au mariage et qu'on vit la vie de couple aussi. C'est quelques mots que je voulais partager avec vous au cœur même de ce temps pascal.